Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways are coming to your parents. You better let your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get clean like the shoe.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info en ce mercredi 19 mars.
Et on commencera par un retour sur la manif contre l'austérité.
Un focus sur la grève des postiers.
On poursuivra avec une information sur le fait que Pascal Simbi-Kangwa a été condamné.
La NASA, l'insurrection qui vient.
Et on continue avec une chronique Nique la police.
Ensuite on parle de Génération Palestine n'est pas le bienvenu à l'IEP.
Puis on apprendra que la basilique de Montmartre a été taguée.
Racolage, où en sommes-nous 11 ans après ?
Mickey aime les souris blanches.
Braquage à l'ancienne.
Et on poursuit par la chronique Il faut que ça se sache.
Et on termine par la chronique numérique.
Un fil plein de mystères aujourd'hui. Alors, le nouveau format de ce Canu Info, c'est que maintenant on commence par des infos généralistes en bref.
Kerviel avait entrepris une marche entre Rome et Paris contre la tyrannie des marchés et il a appris ce mercredi la confirmation par la Cour de cassation de sa condamnation à 3 ans de prison ferme, mais aussi heureusement l'annulation de l'arrêt l'obligeant à payer 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts pour une perte record en 2008 à la Société Générale. Donc a priori il va retourner en prison à moins qu'il se fasse à mal.
Mauvaise nouvelle pour les employés de Renault Truck qui va supprimer 508 emplois en France, dont 319 à l'usine de Vénissieux. Au niveau mondial, ils comptent supprimer 4400 emplois. On ne sait pas s'il y aura des licenciements ou si ce sera des départs en retraite non reconduits, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la masse de travail va énormément augmenter.
La sécurité des centrales nucléaires va être renforcée. C'est la déclaration hier de notre ministre de l'écologie Philippe Martin. Cela fait suite à l'action menée par 56 militants de Greenpeace dans la centrale de Fessenheim hier.
La Brinks est dans le viseur de la justice. La société de transport de fonds est soupçonnée d'escroquerie, de faux et usage de faux. La partie de l'entreprise visée par l'enquête est le contrôle des passagers et bagages à l'aéroport de Roissy-Saint-Exupéry. Les autorités se sont rendues compte que plusieurs salariés ne possédaient pas l'agrément de sûreté nécessaire et obligatoire pour travailler dans un aéroport. Et l'entreprise aurait même présenté de faux agréments.
Et je finis avec une petite note heureuse, c'est que les domiciles de Michel Alliot-Marie et de son père ont été perquisitionnés hier dans une affaire d'abus de confiance au détriment de l'association des Pyrénées-Atlantiques. Alors, hier, il y avait une manif contre l'austérité. C'est plusieurs milliers de manifestants qui est appelé par la CGT, FO, FSU Solidaire, qui ont défilé dans de très nombreuses villes pour dire leur opposition au pacte de responsabilité. Donc, un pacte acte de complaisance pour les manifestants. C'est pour dénoncer les 30 milliards de cadeaux au patronat et aussi défendre l'emploi, les salaires, la protection sociale et les services publics. Cinq jours avant les élections municipales, les syndicats voulaient mettre la pression sur le gouvernement pour savoir comment ils comptent à la fois financer ce pacte de responsabilité, mais tout en supprimant les cotisations patronales et la branche famille de la sécurité sociale et tout en maintenant le niveau des prestations sociales. Bon, si on parle de IFO, il faut préciser que l'ancien secrétaire général donc, du syndicat, Marc Blondel, est mort dimanche à l'âge de 75 ans. Voilà. Mais bon, en tout cas, pour revenir au mouvement, il y a eu 140 rassemblements à Paris. La banderole des têtes était ensemble pour les salaires, l'emploi, les services publics, la sécurité sociale. À Marseille, les gens défilaient sous la banderole Progrès Social et à Toulouse, ils manifestaient pour leurs enfants. Les appels à la grève ont été malheureusement peu suivis. Donc j'ai que quelques chiffres, j'ai pas dans tous les secteurs, mais dans l'éducation nationale, c'est 5,7% d'enseignants, dans les 26 académies métropolitaines, et à Pôle emploi, seulement 5,2% du personnel. Et donc, toi, si tu veux nous parler un peu du mouvement qui se passe à la Poste à Lyon en ce moment.
Oui, alors en ce moment, alors du coup, en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt les élections, et du coup, il y a la distribution des plis électoraux. Et normalement, les postiers sont, chaque fois qu'il y a des élections, sont payés en plus par rapport à la masse de travail énorme que ça représente en plus de distribuer les plis électoraux. Et cette année, là où je travaille à Bellecour, ils ont décidé de rien donner en plus pour les plis électoraux et cette année. Et ils ont dit que c'était une mesure nationale. Or, malheureusement, les gens connaissent d'autres personnes qui travaillent dans d'autres postes. Et c'est pas vrai, il y en a qui sont payés. Et du coup, il y a eu pas mal de bureaux de poste qui ont fait grève mardi, en profitant du préavis avec la manif dont tu viens de parler, là. Et il y en a plusieurs qui se sont fait, du coup, payer quelques heures en plus, à peu près 5 heures, c'est-à-dire à peu près moitié moins que les fois d'avant. Mais en tout cas, ils ont réussi à se faire payer ça et ils ont repris le boulot. Sauf que nous, à Bellecour, le patron a décidé que lui, il donnerait rien. De toute manière, il donnera rien. Du coup, là, c'est parti sur une grève illimitée avec à peu près une quarantaine de personnes sur piquet de grève à partir de 5h30 du matin.
Ce matin.
Donc ça a commencé mardi, ça a continué ce matin et on verra pour la suite demain. En sachant que du coup, je pense que oui, je crois qu'on est encore le seul bureau de poste où c'est pas encore payé.
Et le patron, il est revenu sur quelque chose ce soir ou pour l'instant ?
Alors non, alors liste le truc c'est que déjà ce que j'ai oublié de dire c'est que la Poste a touché 70 millions d'euros pour distribuer ses plis électoraux et face à au gros succès de la grève. Le chef, il s'est montré plus gentil avec les gens qui n'ont pas fait la grève. Et il leur a dit, mais si vous rentrez plus tard, on vous payera les heures supplémentaires, ce qui ne se fait pas habituellement. Donc voilà, donc on peut dire que d'un certain côté, ça a marché un petit peu. Et il y a une petite histoire rigolote, c'est que ce matin, sur le piquet de grève, on a vu plusieurs jeunes qui passaient et qui demandaient où était la Poste, parce qu'ils avaient un entretien. Ils devaient participer, Pôle emploi les avait envoyés pour participer à un entretien, pour peut-être travailler, et du coup on a compris qu'il devait, il devait avoir peur de la grève et chercher des gens pour remplacer les postiers qui étaient grévistes. Mais le truc c'est qu'ils avaient, il y a quelqu'un qui a accepté de nous raconter comment ça s'est passé, et la Poste avait convoqué 70 personnes pour faire une sélection de gens qu'ils allaient embaucher. Le gars qu'on a vu nous a dit qu'au final ils étaient que 10, et qu'ils sont rentrés dans la Poste et ils ont vu l'état énorme de plis électoraux qui n'étaient pas distribués, et ils se sont tous barrés, sauf un, parce qu'ils ont dit « faut quand même pas déconner ». Donc voilà, c'est les dernières nouvelles, en sachant qu'aujourd'hui, on a été menacé par notre patron quand on rentrait à l'intérieur des locaux, qui nous disait vous avez pas le droit d'être là ». Vous êtes gréviste, vous n'avez pas le droit de rentrer, alors que normalement on a le droit de rentrer au moins un local syndical et normalement d'aller pisser aussi à l'intérieur.
Parce que du coup il y a quand même un vrai enjeu au niveau électoral, parce que si c'est pas fait d'ici dimanche, il se passe quoi ?
Eh ben c'est très grave, je pense que si c'est pas fait d'ici dimanche, l'argent que la Poste a touché, on va lui demander de le rembourser. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que de toute manière ils vont trouver un moyen de le faire d'ici dimanche. En tout cas effectivement, il y a là pour les postiers un gros moyen de pression. Cette histoire du pli électoraux, ça fait une belle arme.
Mais pourquoi c'est le seul patron à pas vouloir lâcher ?
Eh ben, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, les patrons ont eu le choix dans chaque établissement de faire comme ils voulaient, de payer un nombre d'heures comme ils voulaient. Mais apparemment, moins ils en payent, plus ils sont bien vus. Peut-être qu'ils touchent quelque chose en plus.
Parce que c'est difficile à justifier à des salariés quand ils ont touché une grosse enveloppe de fric pour le faire et qu'il n'y a aucune thune que les salariés retrouvent dans l'histoire quand même.
Oui, c'est assez difficile, mais je crois que maintenant, ils n'ont aucune honte, quoi. Enfin, ils parlent aux gens comme à des merdes, on peut dire comme ça, et voilà, ils leur disent « bossez, vous ne serez pas payés », c'est comme ça.
Et au niveau de la force de la mobilisation, chez vous, ça donne quoi ?
Eh ben, chez nous, c'est assez incroyable. Il y a eu beaucoup de grévistes. Moi, j'avais jamais vu autant de grévistes depuis que j'y bosse.
Tu nous dis ça à chaque fois que tu viens parler d'une gréviste.
Ah ouais, eh ben, c'est incroyable. Eh ben oui, eh ben, c'est incroyable. À chaque fois, ça augmente. Qu'est-ce que je te dis ? C'est comme ça, mais attention, hein, c'est bientôt là. Oui, voilà. Et du coup, j'allais dire, c'est bientôt la révolution, mais je suis pas sûr qu'on y soit encore tout à fait. Mais ça peut partir de petites choses comme ça. En tout cas, oui. En tout cas, oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu m'as coupé avec le truc, on t'a pas entendu. C'est pas grave. Je tiens à dire que je me lève à 4h30 du matin. J'ai pas l'habitude. C'est pour ça que je suis un petit peu décousu. Voilà, et ça devrait continuer demain, et peut-être, enfin demain on verra si on continue le mouvement, et peut-être vendredi on verra. De toute manière, vendredi ce sera le dernier jour pour distribuer les plis électoraux. D'ici là, je sais pas comment ça va se passer.
Et est-ce que les gens sont les bienvenus pour vous encourager et venir vous rendre visite sur les piquets ?
Oui, surtout s'ils amènent des petits trucs à manger, etc. Mais en sachant que demain, il y a le rendez-vous à 6h, 6h moins 10 devant la grille, et on ne sait pas si la décision va être prise de reprendre le travail ou de continuer la grève, ou de reprendre le travail éventuellement en refusant de prendre les plis électoraux. On ne sait pas encore ce que...
Et donc, tout à l'heure, tu t'es coupé, mais la question, c'était combien de gens suivent dans le bureau ?
Et ben là, on était à peu près une quarantaine de personnes sur les deux jours. Et du coup, le premier jour, donc c'est-à-dire hier, il y a eu 20 tournées qui ne sont pas faites du tout. Malgré que il y a des gens qui font des tournées en plus, il y a même des chefs qui font des tournées. aujourd'hui, je pense qu'il y en avait moins. Mais voilà, et du coup, il y a par exemple des gens qui font des tournées de gens qui n'étaient pas là, qui en ont fait aujourd'hui, de gens qui n'étaient pas là hier, et qui vont faire une tournée qui va durer, qui commence à 6h et qui finissent à 18h, etc.
Il y a combien de tournées à peu près normalement ?
Je sais pas. Il ne fallait pas me poser cette question, j'en sais rien.
Eh bien, merci pour toutes ces infos.
Alors, Pascal Simbikangwa a finalement été condamné. Pascal Simbikangwa, on vous en a déjà parlé plusieurs fois ici, c'est un Rwandais qui a été jugé en France pour des histoires de génocide de 1994, donc génocide des Tutsis. Ce que j'ai sous les yeux, c'est le communiqué du CPCR et de Survie. Le CPCR, c'est le collectif des partis civils pour le Rwanda. Et Survie, c'est cette association qui lutte contre la France-Afrique. Alors, il faut savoir que ce Pascal Simbikangwa, ça a été le premier procès en France de quelqu'un accusé de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide au Rwanda, en sachant qu'il y a un paquet de gens après le génocide qui se sont réfugiés en France pour échapper aux poursuites et qui y sont encore bien, pour la plupart. Donc je vais vous lire le communiqué du CPCR et de Survie. À l'issue du verdict du jury de la Cour d'assises de Paris, le CPCR et Survie, partie civile dans le procès du Rwandais Pascal Simbikangwa, expriment leur satisfaction de voir l'accusé reconnu coupable et condamné à 25 euros de réclusion pour des actes commis durant les 3 mois du génocide.
25 euros seulement ?
25 euros, non, 25 ans, 25 années. Donc il a été condamné à 25 ans pour des actes commis durant les 3 mois du génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Nos organisations rappellent que ce procès historique est le premier d'une longue série à venir. Ce verdict a ouvert une brèche contre l'impunité des génocidaires résidents en France. Il faut rappeler que sur ce sujet, la France a été condamnée en 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire de ce Venceslas Munyeshiaka, qui est un curé rwandais qui, après le génocide, a été exfiltré et a continué sa carrière de curé en Bretagne. Et alors qu'il est, je ne sais pas s'il dit encore des messes, mais en tout cas, il est en France tranquillou, quoi. Alors qu'il avait vraiment fait des sales trucs au Rwanda.
Mais enfin, excuse-moi, exfiltré par qui?
Alors lui, je pense que c'est un peu par le Vatican, mais dans tous les cas, et la France et le Vatican ont fait énormément de boulot, une fois que la guerre était perdue au Rwanda, ont fait énormément de boulot pour exfiltrer les gens qui avaient eu des grosses responsabilités dans le génocide, pour qu'ils risquent pas de se retrouver jugés par une cour pénale internationale. Je continue mon communiqué de presse. Organisé dans de bonnes conditions, après une instruction sérieuse, ce procès a permis de réaffirmer que le génocide des Tutsis au Rwanda n'était pas contestable. Le déroulement des audiences avait pourtant été marqué par la réception par l'accusé et ses défenseurs, par la répétition par l'accusé et ses défenseurs de discours visant à atténuer la réalité et l'ampleur du génocide des Tutsis, puisqu'on sait que sur ce génocide, mais en fait comme à chaque fois qu'il y a un génocide, il y a un camp négationniste qui est fort, et donc là, la défense de Simbi Kangwa a appuyé là-dessus. Donc en particulier en contestant certains faits tels que la préméditation et l'organisation soigneuse du génocide en général. Mais le verdict, dans le verdict de la cour d'assises, on peut lire, deux points ouvrés les guillemets, la thèse soutenue par l'accusé d'un mouvement populaire, chaotique, spontané, incontrôlable, non concerté et inorganisé ne concorde nullement aux constatations réalisées tant par les historiens que par les témoins visuels, journalistes, rescapés et diplomates, qui ont tous relaté au contraire la préparation et l'organisation particulièrement efficaces des massacres perpétrés en raison de motifs politiques ou raciaux. Cette thèse du chaos généralisé est également incompatible avec l'ampleur des tueries commises et leur propagation à tout le pays. C'est-à-dire que voilà, pour ce premier procès d'un génocidaire rwandais, c'est plutôt une belle victoire juridique où la justice française reconnaît en gros des choses qu'un paquet d'hommes politiques français continuent à contester, c'est-à-dire la préparation et la planification du génocide. Alors le communiqué continue un petit peu, mais je vais en lire encore un tout petit bout. Là, le verdict de ce procès n'est qu'une étape sur la voie de la vérité de la justice qui vient de s'ouvrir en France. 27 des 33 affaires instruites par ce qui s'appelle au ministère de la Justice, le pôle génocide et crimes contre l'humanité concernant le Rwanda. Sur ces affaires, il y en a 7 qui concernent la complicité présumée de militaires et mercenaires français pendant le génocide. L'association Survie, partie civile dans ces 7 dossiers, milite depuis de nombreuses années pour que la responsabilité des dirigeants français, politiques et militaires, soit également établie et jugée, et ce qui n'était pas l'objet du procès Simbi Kangwa. Et quant au CPCR, il dit que non, c'est pas intéressant ce qu'il dit, on va s'arrêter là.
La blague, c'est quand même que la France a sorti il n'y a pas longtemps un rapport d'enquête qui lui permettait de se disculper de son rôle dans l'organisation du... Ils se sont auto-commandés un rapport d'enquête pour bien vérifier qu'ils étaient bien non coupables dans ce génocide.
Mais quand tu dis il n'y a pas longtemps, c'est vraiment il n'y a pas longtemps? Parce qu'ils ont fait ça en 98.
Et ben, a priori, alors dans ce cas, c'est peut-être celui-là qu'ils ont ressorti il n'y a pas longtemps à l'occasion du procès.
C'est ça, il y a eu un gigantesque travail d'une commission d'enquête parlementaire en 98 sur les responsabilités de la France au Rwanda. C'est ça, ils ont fait vraiment un boulot complètement dingue. Il y a des tonnes et des tonnes du travail d'enquête qui sont disponibles, mais bon, il faut aller chercher dedans parce que il y en a vraiment des dizaines, peut-être des centaines de milliers de pages. Mais les conclusions qui par contre tiennent en 30 pages disent non, mais en fait, la France, elle a rien fait. Alors que tout le reste, ça dit exactement l'inverse, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas allé y voir, mais il y a d'autres gens qui l'ont fait. Not a desperate man with a jewel I take from Peter to go and pay full sunrise by sending my virtue fool. What have you made if you gain the whole world but sell your own soul for the price of a pole?
Alors, la blague du jour nous vient de la NASA, qui a publié une étude sur le devenir de la civilisation. Et miracle, la NASA est d'accord avec les auteurs de l'insurrection qui vient. Vous vous en souvenez, on a parlé la semaine dernière, Julien à la ferme, tout ça. La NASA annonce, en effet, selon la RTBF, donc radio, télévision, belge,
francophone.
Ouais. Bon, en tout cas, la radio-télévision belge, qui s'est procuré le document, donc qui explique que la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui pourrait bien disparaître dans les prochaines décennies en raison de problèmes de gestion des ressources naturelles et d'une mauvaise répartition des richesses. pour la NASA, il y a deux scénarios possibles pour l'homme du 21e siècle, enfin l'être humain du 21e siècle. Le premier serait la réduction par la famine de la des populations pauvres. Dans ce cas, la destruction de notre monde ne serait donc pas due à des raisons climatiques, mais à la disparition des travailleurs. Second scénario, la catastrophe repose sur la surconsommation des ressources qui entraîne un déclin de populations pauvres, suivi par celui, décalé dans le temps, des populations riches. Selon les chercheurs, plusieurs empires ont disparu, notamment à cause de l'aveuglement des élites qui, jusqu'au bout, se croyaient protégées et ont refusé de réformer leur système de vivre ensemble. Les auteurs de l'étude, qui ont nettement moins d'humour que ceux de l'insurrection qui vient, semblaient eux se réjouir de la fin annoncée de la civilisation, préconisent eux de réduire les inégalités économiques afin d'assurer une redistribution plus juste des ressources et de réduire considérablement la consommation de ressources en s'appuyant sur des ressources renouvelables moins intensives et sur la croissance moindre de la population.
Vous voyez, c'est un scoop sur Radio Canu, la NASA est infiltrée par les bolcheviks.
C'est ça.
Il est décroissant.
Mais ils sont nettement moins drôles.
Mais en même temps, c'est un peu leur beurre, la NASA, de dire des trucs comme ça, parce qu'ils envoient des gens dans l'espace, du coup, c'est un peu pour se faire payer des missions et dire aller dans l'espace.
Ouais, en même temps, je peux te dire que la NASA, je pense qu'elle n'est pas sur les consommations d'énergie renouvelable. Quand elle balance une fusée, moi, je pense que ça ne va pas les servir. Enfin bon, on verra. Honey, I'm starving, I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classroom speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it. Oh, oh, assassin de la police. Oh, oh, nique la police.
C'était un jingle DIY. Et bon, on va commencer par une petite brève. À Grigny, dans l'Essonne, samedi après-midi, une voiture de la BAC a été la cible d'un cocktail Molotov. Le véhicule a été bien endommagé, mais l'équipage n'a pas été blessé. Dans la journée, des flics ont envahi le quartier, mais les protagonistes n'ont toujours pas été retrouvés.
On va à Marseille maintenant, où les flics ont attaqué le carnaval ce week-end. Déjà, du coup, en 2013, en pleine année capitale culturelle, le carnaval avait subi une escorte policière complètement disproportionnée et pas mal d'entraves dans le déroulement. Et du coup, là, c'est le carnaval de la Prève, de la Plaine, pardon. Cette année, le dimanche 16 mars, a vu un cortège bien festif déambuler dans tout le quartier. Mais sur la fin, alors qu'une farandole dansait et chantait autour de ce qu'on appelle le caramatran, qui était en flamme. Alors c'est la tradition, c'est un mannequin de paille qui subit un procès, qui est toujours condamné et qui brûle en place publique comme ça là. Du coup, ce mannequin brûle et là, les pompiers arrivent et ont voulu éteindre le feu avant que ça s'arrête comme c'est normalement la tradition. Face aux protestations, la police a chargé direct comme ça. Des enfants ont été gazés, des passants matraqués, il y a deux personnes qui ont été arrêtées et quatre autres par la suite puisqu'il y a eu un rassemblement de soutien devant le commissariat de Noailles. Et du coup, ces quatre personnes ont été accusées d'avoir agressé les policiers. Alors, deux jours plus tard, il y a eu des comparutions immédiates. Le verdict est tombé pour deux personnes. Il y en a un qui a pris 2 mois ferme et 8 mois avec sursis. Le deuxième a pris 2 mois ferme et c'est tout. c'est tout, bref. Il y a un jeune qui a refusé la comparution immédiate, qui dort du coup en prison jusqu'à son projet, qui reste en préventif jusqu'au 16 avril. Son chef d'inculpation, c'est d'avoir taché avec un œuf un policier en civil qui se trouvait dans le carnaval. Pour les personnes arrêtées lors du rassemblement de solidarité devant le commissariat, 3 d'entre elles ont pris 6 mois, dont 2 ferme, une a pris 1 mois, dont 2 fermes aussi, et la cinquième a pris 8 mois, dont 2 fermes, avec mandat de dépôt. Au total, ce soir-là, il y avait quand même du coup 4 personnes qui dormaient toujours au Baumettes. Et petite ironie magnifique, mardi 25 mars, mardi prochain, la ministre de la Culture inaugurera une exposition au fameux MUCEM, le nouveau musée de Bobo sur le fond de mer, intitulée « Le monde à l'envers, carnaval populaire d'Europe et de Méditerranée ». Où, bien entendu, il y a une place qui sera réservée à la tradition locale marseillaise. C'est quand même magnifique. Du coup, le collectif d'Orga demande, en tout cas, la libération immédiate de tout et toutes les carnavaliers détenus, et annonce commencer à préparer dès maintenant le carnaval 2015, qui sera un carnaval des carnavals, populaire et international, où seront invités les collègues carnavaliers de Dunkerque, de Cadix, de Naples, de Tataouine, pour occuper plus encore l'espace public, où respire l'âme du quartier. On espère que la fête sera bruyante, mal polie et excessive.
À Alès, dans le Gard, les policiers pris pour du gibier. Alors là, c'est un peu plus original que le cocktail Molotov. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un équipage de flics procède à un contrôle, un type se met à les insulter au loin. Puis les flics voient une flèche de 40 cm plantée dans le pare-choc avant de la voiture. Le tireur était muni d'une arbalète de chasse. Et oui, rien que ça. Arme utilisée d'habitude pour chasser le sanglier. De là à faire un rapprochement entre flic porc, il n'y a qu'un pas. Au début, les
que
flics...
Que nous ne franchirons pas, que nous ne franchirons pas.
Oui, 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 non, non.
Une radio parfaitement respectable.
C'est le seul truc qu'on n'a pas le droit de dire.
C'est ça. Au début, les flics pensaient qu'on leur jetait des cailloux. Bon, quand même, ils sont un peu habitués et tout. Jusqu'au moment où ils ont regardé leur pare-choc et là, ils se sont dit « Ah, merde !» malheureusement, dans tout ça, le type a été interpellé avec son arbalète dans les mains. Du coup, il va être jugé et va prendre cher.
Oh, oh.
Et ensuite, on passe à Reims. Non, je pensais qu'il y aurait une petite musique, mais non, tant pis. À Reims, une patrouille intervient dans le quartier Croix-Rouge pour un feu de poubelle. En passant près d'un immeuble, les flics ressentent une secousse dans leur véhicule, accompagné d'un gros bruit sourd. Ils attendent quelques mètres pour s'arrêter. Et là, ils se rendent compte qu'on leur a jeté une haltère. qui a perforé le toit, mais heureusement pour eux, ils ont des voitures bien confortables et leur toit est doublé d'une moquette à l'intérieur. Du coup, ça a absorbé le choc. En tout cas, ça a pas percé ça. Bon, là, ce qui craint vraiment dans l'histoire, c'est que c'est le gars qui a fait ça, c'est un ado de 17 ans qui a été arrêté, mais lui, il n'y l'est fait. Son ADN a été retrouvé sur l'haltère, mais lui, il affirme qu'effectivement, elle lui appartenait, mais il l'avait jeté dans une poubelle. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui s'en serait servi. Il a tout de même été placé en détention provisoire et va être jugé pour tentative de meurtre.
Moi, je connaissais cette histoire avec des pots de fleurs.
Ouais, avec des plaques d'égout.
Machine à laver, tu disais.
Alors, moi, je vais vous parler de Génération Palestine, qui a encore des problèmes avec l'IEP de Lyon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, il y avait eu des événements rocambolesques, et l'IEP avait fermé en urgence pour empêcher une conférence de cette association. Et apparemment, cette année, il semble que l'histoire recommence, donc je vous lis un bout de leur communiqué. Alors, l'histoire se répète. Déjà à Lyon, le 2 mars 2012, avec nos intervenants... Alors là, je vais écorcher leur nom, je suis désolé... Mbuiseni Ndolzi et Wassim Gantou, venus respectivement d'Afrique du Sud et de Palestine, nous nous retrouvions à la rue et nous nous donnions coûte que coûte notre conférence « Israël, un état d'apartheid ». L'Institut d'études politiques de Lyon, qui s'était engagé à nous prêter ses locaux pour le 2 mars, le temps de notre conférence, avait cédé à la pression, dont nous ne savons toujours pas aujourd'hui d'où elle venait, en décidant d'évacuer ses propres étudiants de ses locaux et de fermer l'Institut sans même daigner nous prévenir. Malgré tout, nous avons une nouvelle fois tenté cette année de faire une demande officielle de salle à l'IEP pour une conférence avec Ivar Ekelan, mathématicien réputé, ex-président de l'Université Paris-Dauphine et président de l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Après un long échange de mails, l'IEP a décidé de refuser d'accueillir notre conférence intitulée « Les relations universitaires franco-israéliennes, enjeux et perspectives ». Motif de ce refus, la thématique, donc là c'est une citation, « la thématique est jugée potentiellement conflictuelle ». Cette interdiction et le motif qui l'accompagne sont incompréhensibles. Que peut donc bien sous-entendre l'emploi de l'expression « thématique conflictuelle » L'IEP n'ayant à ce jour daigné répondre à cette question, nous nous hasardons à proposer ici notre propre analyse. Soit il renvoie un trouble potentiel à l'ordre public, un motif qui seul peut justifier l'interdiction d'une conférence. Cependant, nous avons rappelé à la direction de l'IEP que deux conférences organisées dans le cadre de l'IAW, donc c'est l'International Apartheid Week, je crois, c'est le truc dans lequel s'inscrit cette conférence, ont pu se tenir sans heurte au début du mois de mars. L'une s'est déroulée à l'université de Paris 8, donc Paris-Dauphine, tandis que la seconde, intitulée Apartheid Israël et lutte palestinienne, s'est tenue à Sciences Po Paris. L'IEP de Lyon lui-même avait accueilli dans ses locaux une conférence intitulée Palestine étudiée et enseignée sous la colonisation, que nous avions organisée en octobre 2013. Des dizaines d'autres conférences de ce type se tiennent régulièrement dans les universités françaises depuis plusieurs années, sans qu'il n'y ait eu à déplorer de troubles à l'ordre public. Soit il insinue que l'organisation d'une conférence ayant pour thème la colonisation israélienne en Palestine et le rôle des universités françaises face à cette institution provoquerait un débat qui risque d'opposer des avis potentiellement contradictoires et de fournir une réflexion critique sur l'État d'Israël. Or, nous avons ici la définition même d'un débat qu'une université se doit d'encourager afin d'aboutir à la formation d'esprits informés et critiques sur tout ce qui se passe et se sur tout ce qui s'est passé et se passe dans le monde. Mais le cadre universitaire ne semble pas être l'espace d'analyse, de débat et de construction politique qu'il devrait être. Est-ce étudier la politique ? Est-ce qu'étudier la politique doit se limiter à une analyse froide et utilitaire des faits, des dates, des intérêts de chaque protagoniste ? Ou est-ce que réfléchir de manière critique à la pertinence et à la légitimité de ces faits, dates et intérêts, est-ce que c'est analyser, pardon, elle n'est pas très claire, leur phrase de la fin, est-ce que c'est analyser et parler d'hommes politiques, de partis et d'États, ou est-ce que c'est savoir se placer du point de vue des peuples qui le subissent, les suivent et les rejettent ? I hope you're not laughing, poet or pauper. Wish to your classroom, speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it.
À Paris, la basilique de Montmartre a été la cible de graffitis anticléricaux. Alors, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont fait ça juste pour qu'on en parle au Canu Info. Ils ont tagué les portes et le parquet, et le parvis, du Sacré-Cœur. C'est un peu l'autre nom de la basilique. Où a été inscrit dessus ni Dieu, ni maître, ni État, feu aux chapelles et abat toute autorité. Bon, là, au moins, on sait de qui ça vient. Hein, de l'extrême gauche. On sous-titre. Ah ouais. Ouais. Des tags, ouais, c'est au moins ça fait partie des seules actions. On sait que c'est pas l'extrême droite qui l'a fait, c'est les saccages des églises. Des tags sûrement motivés par toutes les saloperies de manifs anti-homo et anti-théorie du genre, où l'église est, on le rappelle, extrêmement bien impliquée dans ces mouvements réactionnaires. Ça n'a pas empêché toute la classe politique de s'indigner. Bertrand Delanoë en tête, suivi de Anne Hidalgo Sapouline et de tous les candidats à la mairie de Paris qui sont allés pleurer en disant « c'est scandaleux, pourvu qu'on arrête tout le monde et qu'on les foute en prison ».
On peut noter qu'hier, c'était le 18 mars, le premier jour de la... Enfin, 18 mars 71, premier jour de la Commune.
Et je pense que c'était ça aussi.
La basilique a été construite pour que Paris s'excuse d'avoir fait la Commune.
Enfin, et elle a été construite sur les charniers et sur le corps des communards.
Voilà. Ah, tain, en plus, c'était des gauchistes, mais comme ça qu'il y avait des références dans l'histoire.
Hein, ah, ça, c'est de la référence historique.
Alors, on va poursuivre sur une référence historique, mais qui est un peu moins datée. Il y a 11 ans, le 18 mars, était votée la loi de sécurité intérieure, qu'on appelle la loi Sarkozy, et dont l'article 50 pénalisait le racolage public, qu'il soit passif, actif ou passif. Parce que toujours, enfin, personne n'a toujours pas compris ce que c'était le racolage passif. Mais bon, voilà, c'est pénalisé. Et en fait, cette loi, elle a été faite sous couvert de protéger les personnes en situation de prostitution, soi-disant pour lutter contre les réseaux, etc. etc. Et en fait, après 11 ans d'application de cette loi, le bilan, il est sans appel. Elle vise surtout à chasser des trottoirs les travailleuses et travailleurs du sexe. Et en fait, cette loi, elle a beaucoup accru la vulnérabilité sanitaire et sociale des personnes. Donc, en faisant que les gens se sont cachés pour pas rester dans les lieux un peu où il y avait trop de passants et trop de flics. Donc, aller dans des lieux toujours plus reculés, des lieux plus difficilement accessibles aux assos. Et puis finalement, en précarisant les personnes, ça les rend encore plus dépendantes des proxénètes pour celles qui ont des proxénètes, en fait, finalement. Et puis, surtout, en termes de santé publique, ça ne favorise pas du tout les comportements préventifs. Et donc, voilà, ça expose davantage les personnes aux infections sexuellement transmissibles et au VIH. Et ça expose les personnes au risque d'agression. Avec tout un tas de trucs où on crée l'amalgame un peu en prostitution et délinquance, etc. Donc, ça veut dire qu'après, ça fait aussi que les personnes, les travailleuses du sexe, elles hésitent beaucoup plus à se rendre chez les flics quand elles ont vécu des violences, parce qu'elles hésitent à aller porter plainte vu leur relation cordiale avec la police. Et en fait, pendant 10 ans, mais toutes les assos qui soutiennent les travailleuses du sexe, non, la plupart des assos communautaires ou de lutte contre le sida ou de santé ou qui soutiennent les revendications des travailleuses du sexe, elles ont dénoncé les effets pervers de cette loi sur l'accès aux droits, sur les conditions d'exercice, sur la santé. Donc, au bout de 10 ans, le 28 mars 2013, le Sénat s'est enfin décidé à voter l'abrogation de ce délit. Donc, c'était l'année dernière. Donc, le Sénat vote l'abrogation du délit, mais... alors qu'on est quand même dans une situation d'urgence sanitaire et sociale où les assos l'ont dit et répété, il n'y a toujours pas un texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Donc ça risque de durer encore une bonne quinzaine d'années, s'ils prennent leur temps comme ça. Alors que paradoxalement, à l'Assemblée nationale, on discute d'une proposition de loi de lutte contre le système prostitutionnel qui... certes prévoit l'abrogation du délit de racolage, mais surtout qui envisage la mise en place de la pénalisation des clients. Donc là, il y a un petit communiqué de presse qui a été rédigé par le collectif Droit et Prostitution, qui réunit pas mal d'associations qui soutiennent les travailleuses du sexe, qui nous explique un petit peu tout ça, et qui nous dit que c'est quand même toujours un peu scandaleux, et qu'ils demandent l'abrogation immédiate et sans condition du délit de racolage, et que ça passe tout de suite, et que ça soit tout de suite voté à l'Assemblée nationale, etc., et que... on perde pas, qu'on noie pas l'abrogation de ce délit dans le projet qui va être voté sûrement à l'automne autour de la pénalisation des clients. Donc voilà, les assos qui signent ça, c'est Act Up, Arcat, Aide, Autre Regard, Kabiria, Griselidis, Médecins du Monde et le Stras.
Tu veux dire que ça risque d'être encore une des promesses de campagne qui risque de s'ajouter au droit de vote des étrangers, par exemple, pour le PS?
Je ne sais plus si le PS, ils l'ont mis dans leur promesse de campagne, ce truc-là de l'abrogation du racolage.
Ils ont mis la pénalisation du client, mais...
Ouais, ils ont mis la pénalisation du client, mais l'abrogation du racolage, ils ne l'ont pas mis. Donc, ça va juste être noyé dans le... Ils vont faire passer l'abrogation du racolage en mettant la pénalisation des clients, en espérant que ça noie bien le poisson, quoi.
Alors, on savait que Walt Disney n'était pas la société la plus progressiste au monde. Et donc là, on nous apprend que la société Euro Disney, donc, qui est gérante des parcs d'attractions, sera jugée pour discrimination pour avoir publié en septembre 2006 dans un quotidien national gratuit 3 offres d'emploi réservées à des citoyens européens. Elle proposait des CDD à des danseurs, jongleurs, marionnettistes et chassiers en précisant de nationalité européenne pour la parade de son parc d'attractions. Donc c'est l'association SOS Racisme qui avait déposé plainte pour discrimination à l'embauche en raison de nationalité contre Euro Disney auprès du parquet de Meaux en février 2007. Un juge d'instruction a finalement ordonné au début du mois le renvoi en correctionnel de l'affaire. Selon le Monde, le parquet lui avait requis un non-lieu en novembre 2013. Donc le juge a décidé de ne pas suivre les requisitions du parquet. Ce n'est pas le seul litige qui oppose Euro Disney à SOS Racisme, puisqu'en 2009, l'association avait accusé le groupe de loisirs d'avoir utilisé des fiches à caractère ethno-racial, alors je suppose qu'ils écrivaient l'origine ethnique des gens, pour cibler ses recrutements dans un rapport remis au délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Le Euro Disney nie ces accusations, s'il coûte rien.
Alors, le Crédit Agricole de Bessières en Haute-Garonne s'est fait braquer dans les règles de l'art. Les braqueurs sont en effet passés par les égouts, puis ont creusé un tunnel qui menait directement dans la salle des coffres de la banque. Au total, une centaine de coffres ont été cambriolés et la banque ne dit pas si son coffre principal a été pillé. Parce que les centaines de coffres, c'est les coffres, vous savez, des particuliers, là, comme on voit dans les films, parce que j'imagine que vous en avez pas, hein. Du coup voilà, mais on sait pas si le gros coffre comme ça avec la grosse porte et les gros pistons et tout a été braqué ou pas.
Il n'y a pas de gros port, de gros coffre.
Et ben là il y en aurait un peut-être. Le braquage se serait déroulé entre samedi et lundi car la banque était fermée, ce qui fait que le directeur de la banque s'en est aperçu seulement mardi matin quand il a ouvert la banque, ce que des gens avaient fait avant lui. Pour les gens qui suivent un peu les histoires de braquage, il s'agissait du même mode opératoire que le gang des égoutiers dont faisait partie notamment Albert Spargiari, qui a réalisé le casse du siècle en 1976 en volant 50 millions de francs, 30 millions d'euros, à une banque niçoise. Bref, une légende. Depuis ça, les assurances de banque exigent que soit posé un dispositif sismique censé détecter les petits malins qui creuseraient le sol pour arriver dans la banque. Et ben, sauf que là, le procureur Michel Vallet se pose des questions. Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs relais téléphoniques de la ville ont été la cible d'incendies volontaires, privant plusieurs habitants de téléphone. Ce qui expliquerait qu'aucune alarme n'ait pu prévenir d'une intrusion car elles sont reliées directement par le réseau téléphonique. Le proc se pose donc la question si un lien existe entre ces incendies et le cambriolage, car pour ne pas éveiller le soupçon, les incendiaires avaient signé d'un tag « Comité d'action viticole en colère ». Peut-être n'était-ce qu'une diversion ? Ouais, c'est l'heure de la rubrique, il faut que ça sache. Quoi.
Bah, t'assures ce soir, toi, t'assures.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Et on commence ce Faut que ça sache à Mélila, une fois n'est pas coutume, Mélila numéro 17, le retour du retour du retour. C'était le 18 mars, hier au matin vers 8h, il y a plus de 500 personnes migrantes qui ont réussi à rentrer. Alors Mélila, petit rappel pour les personnes qui malheureusement n'écoutent pas chaque semaine notre Faut que ça sache, c'est une des deux enclaves sur le territoire marocain, une des deux enclaves avec Ceuta qui est autonome, alors que Ceuta, je crois que c'est espagnol, et Melilla, c'est autonome, il me semble. Du coup, un nouvel assaut auquel, là, ont pris part 1000 personnes, la gigantesque clôture qui sépare le Maroc de Melilla. Toutes les personnes, malheureusement, ont été...
Alors, pardon, mais une fois que t'as commencé la précision, là, c'est que, du coup, s'ils arrivent à passer de l'autre côté de cette clôture, tout en étant géographiquement toujours au Maroc, ils rentrent juridiquement en Europe. Et donc, à partir de là, on peut pas les foutre dehors n'importe comment, il faut une procédure d'examen de leur demande d'asile.
C'est ça, du coup, même si les 500 personnes, en l'occurrence, se sont fait attraper, c'est quand même un peu une semi-victoire, puisque, du coup, ils rentrent au CETI, le centre d'accueil temporaire pour immigrés, mais du coup, qui est, cette fois, à l'intérieur de la forteresse européenne. Du coup, là, c'est le second assaut de la frontière ce mois-ci. C'est quand même un des plus efficaces en termes d'accès à l'enclave depuis, je sais pas, ça fait quand même vraiment maintenant, ça se répète quasiment tous les mois depuis au moins 2 ans, et c'est vraiment tout le temps de répéter. Ceci dit, par contre, problème, bien entendu, la situation du CETI, elle demeure vraiment explosive, puisqu'il y a quand même 1400 personnes qui y sont enfermées, alors qu'à la base, il a été prévu pour une capacité de 400 places.
Mardi matin, au large des côtes grecques, un bateau de migrants a chaviré. 7 personnes, dont 2 enfants, sont morts. Et il y a de grandes chances qu'en réalité, le bilan total soit de 9 personnes noyées, car 2 n'ont toujours pas été retrouvées. 8 personnes ont pu être secourues. La Grèce est considérée comme une des portes de la forteresse Europe, au même titre que Mélilla, Ceuta et tout. Les autorités grecques estiment entre 300 000 et 800 000 sans-papes dans le pays pour une partie, enfin dans le pays, et pour une partie d'entre eux, la Grèce n'est qu'une étape avant de rejoindre d'autres pays d'Europe. Et c'est pour cette raison que la France met la pression à la Grèce pour gérer le flux migratoire. C'est ce qui justifie à leurs yeux l'existence de Frontex. Et comme son nom l'indique, Frontex est là pour surveiller à n'importe quel prix les frontières extérieures de l'Europe. En 2013, un mur de 12,5 km de long, 3 mètres de haut et de 3 mètres de haut est érigé à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Les 160 km restants de frontière sont protégés par le fleuve Evros. Le mur est équipé de 25 caméras thermiques, ça fait une caméra pour 2 km, et de tout un tas de miradors, de barbelés, le tout pour un total de 3,2 millions d'euros. Et l'Europe a bien évidemment aidé à financer ce projet. Je rappelle l'état financier dans lequel était la Grèce en 2013. Ce mur fait maintenant partie des 4 murs dans le monde qui séparent par exemple le Mexique des États-Unis, Israël et la Jordanie, et des barrières métalliques entre Ceuta et Melilla, et qui séparent le Maroc. Et voilà, encore un mur érigé par les pays riches contre les pays pauvres. Depuis la construction de ce mur, les migrants n'ont d'autre choix que de passer par la mer en prenant beaucoup plus de risques. Rien qu'en janvier 2014, 12 migrants sont morts noyés. Encore une fois, la preuve, c'est que ce n'est pas une frontière ultra sécurisée qui fera que les migrants lâcheront l'affaire. Le seul changement, c'est que les gens prennent encore plus de risques pour traverser les frontières. Et très souvent, des migrants y laissent leur peau.
Et il y a 3 migrants qui sont morts dans les derniers jours en Grèce, a priori tabassés par des gens d'extrême droite. Ce qui nous dit aussi qu'une fois arrivés en Europe, le parcours n'est pas fini pour ces gens-là.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Voilà, recouverte de tags, complètement encerclée par les CRS, les gardes mobiles, les flics en civil et même des vigiles urbains. Voilà à quoi ressemblait le 15 mars en après-midi le siège régional de la Croix-Rouge du Piémont pendant le rassemblement en solidarité avec la lutte des prisonniers de Corso Brunelleschi. C'est un CIE en Italie. On peut y voir, du coup, pendant 2 heures, il y a 50 personnes s'opposant aux expulsions, beaucoup de banderoles, du boucan, des prises de parole au micro. Une belle série de témoignages enregistrés depuis l'intérieur de la Croix-Rouge et qui illustraient ce que font vraiment tous les gens de la Croix-Rouge dans les centres, c'est-à-dire qu'ils collaborent et font partie intégrante de la machine à expulser, exactement comme en France d'ailleurs. Au bout d'une heure, une bonne nouvelle vint réchauffer un petit peu le cœur des personnes présentes, puisque un coup de téléphone du CIE annonce en direct qu'après les incendies qui avaient déjà eu le dimanche précédent, dont on avait parlé la semaine dernière, eh bien 2 autres cellules d'isolement venaient d'être mises au feu. Vers 20h, du coup, un groupe de solidaires se sont déplacés et se sont retrouvés devant le CDI, le CIE, pour saluer avec slogans, pétards, feux d'artifice, etc., le nouvel incendie. De l'intérieur, il y a des retenues qui racontent que les flics ont pris un mec à l'isolement pour l'emmener on ne sait où, et pour l'instant on n'a pas plus de nouvelles. Le lendemain en tout cas, en début d'après-midi, les retenues de la section rouge, c'est donc une partie du CIE, ont mis le feu à la dernière chambre qui restait utilisable de la section. Et ensuite, dans la soirée, c'est la dernière chambre utilisable de la section violette, cette fois, qui est partie en fumée. Du coup, vers 23h, ce soir-là, les perspectives pour la nuit étaient les suivantes. Les prisonniers de la section rouge allaient dormir sur des matelas dehors, dans la cour, et ceux de la violette, dans la salle à manger endommagée, mais sans aucun matelas. Et au bout d'un moment, il va finir par fermer ce centre, et je pense que ça va être encore un truc pas mal en Italie.
Il faut que ça se sache.
À Calais, il y a eu un nouveau décès. C'est un habitant d'un des campements qui a trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi 15 mars. Donc ils étaient partis à Troyes et étaient montés et s'étaient cachés dans un camion. Et du coup, quand ils sont aperçus qu'ils allaient dans la mauvaise direction, parce que les camions qui transitent par Calais, soit ils vont direction de l'Angleterre et prennent le ferry, soit ils vont en Belgique. Et dans ces moments-là, ça n'intéresse pas les migrants. Parce que ce qui les intéresse, c'est de passer la frontière pour rejoindre l'Angleterre. Et donc, ils ont fait du bruit pour que le chauffeur s'arrête. Donc celui-ci a freiné très brusquement et l'un des 3 passagers s'est cogné la tête. Les 2 autres se sont enfuis et ont rejoint Calais à pied parce qu'ils ont eu peur du routier. Et ils ont prévenu des bénévoles qui ont ensuite appelé les hôpitaux pour avoir des nouvelles, et on finit par apprendre qu'il était mort quand les secours, au moment où les secours étaient arrivés. Voilà, bien sûr, ils sont allés faire une déposition chez les flics et l'ambiance, en tout cas dans le campement, était lourde puisque c'est le 3e mort en 2 jours.
Il faut que ça se sache.
Et on fait un bref passage cette fois au centre de rétention de Rennes, puisque le 12 mars de la semaine dernière, il y a des retenus du centre qui ont lancé un mouvement de protestation. Ils ont sorti tous les matelas dans la cour et ont refusé de manger et de rentrer dans les cellules. Le mobilier des cellules a été démonté et entassé dans les couloirs pour bloquer les accès et les flux. Et dehors, il y a pas mal, une dizaine, vingtaine de personnes qui ont fait un très long parvoir sauvage. Et voilà.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Il est fatigué.
Ouais, il est fatigué. Snowden, les révélations de Snowden, encore de nouvelles. Donc, petit rappel, Snowden, il est exilé en Russie. Il continue tranquillement sa tournée anti-NSA. Et hier, à l'occasion d'une conférence à Vancouver, il a balancé de nouvelles infos. Et donc, la NSA, l'Agence américaine de renseignement, a la capacité technique d'enregistrer l'ensemble des appels téléphoniques passés depuis un pays. Ça fait beaucoup, hein. Et même de décrypter ces conversations un mois après qu'elles ont eu lieu. Donc ça veut dire que c'est pas juste de l'écoute, c'est de l'enregistrement et de l'analyse après coup.
Ils ont pas seulement les capacités techniques, ils l'ont fait.
Oui. Donc le programme surnommé Mystique a été lancé en 2009 et a atteint ses pleines capacités en 2011 contre un pays cible. Mais on ne sait pas lequel c'est, parce que donc le Washington Post, qui a publié les déclarations de Snowden, précise qu'à la demande des autorités américaines, il n'a pas révélé un certain nombre de détails permettant d'identifier le pays où ce système était utilisé ou les pays qui auraient pu être visés.
Alors, l'ICANN, c'est une société à but non lucratif, donc de droit californien, pour l'attribution des noms de domaine. Alors, les noms de domaine, c'est les lettres qui se trouvent après le point à la fin d'une adresse .com, .net, .org, .fr, .uk. Alors, c'est un rôle central pour Internet. En gros, Internet, c'est plusieurs réseaux qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et le travail de cette ICANN, c'est de produire la cartographie de la manière dont ces réseaux s'enchevêtrent pour permettre à votre ordinateur de trouver le site qu'il cherche. L'ICANN gère aussi l'attribution des adresses IP. Donc, l'adresse IP, c'est l'adresse de votre ordinateur ou d'un serveur qui contient des données sur Internet. Bon. C'est par exemple ce qui permet de vous retrouver pour Adobe, tout ça. L'ICANN s'occupe en dernier recours aussi des protocoles qui permettent, donc elle émet des normes pour permettre par exemple à un téléphone de marque Apple de correspondre avec un ordinateur sous Linux, mettons. Donc voilà, l'ICANN a été créée sous l'impulsion du vice-président Al Gore, c'est un organisme multi-acteurs avec les pays qui sont représentés, des entreprises et des usagers. Donc les usagers, il ne faut pas exagérer, c'est les entreprises qui gèrent les réseaux internet, Orange, SFR, tout ça. par contre, c'est une société de droit californien qui relève en dernière instance du département du commerce américain. En gros, les décisions sont prises par les acteurs et à la fin, c'est le département du commerce qui décide ou non de les appliquer, puisque c'est eux qui ont les agents qui décident ou non de l'application technique des choses. Cette semaine, patatras, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient abandonner la gestion de l'ICANN. Alors il faut dire que depuis quelques temps, avec notamment les affaires Snowden et tout ça, il y a pas mal de pays émergents et des dictatures de tout poil, mais pour d'autres motifs, qui faisaient pression sur les États-Unis pour qu'ils abandonnent la gestion technique de cette ICANN. Les États-Unis, qui, semble-t-il, avaient décidé de relancer un peu de confiance en Internet, parce qu'Internet est quand même un gros secteur économique pour eux, ont donc décidé de céder à cette revendication et d'abandonner leur gestion de l'ICANN. Alors, a priori, il y a deux avenirs possibles qui se dessinent, soit renforcer ce côté multi-acteurs et trouver un moyen pour qu'ils élisent entre eux un chef et que ce soit lui qui gère le personnel, tout ça, tout ça. La deuxième, donc ça, c'est l'option qui plairait bien aux États-Unis et à l'Union européenne. La deuxième option, ce serait un fonctionnement qui ressemble plus à celui des Nations unies, avec un représentant par État et une voix par représentant d'un État. Ça, c'est un système qui semble pour l'instant privilégié par les États où la domination, on va dire, est un peu plus insidieuse, un peu moins insidieuse, et un peu plus frontale qu'ici. Donc la Chine, l'Iran, tout ça, qui, eux, seraient pour ce mode de domination. Enfin, ce mode de direction.
Domination.
Merci.
Eh bien, je vais continuer en parlant de noms de domaine. Donc, les premiers sites Internet finissant par .berlin.
Point Paris aussi.
Voilà, sont apparus hier, mais c'est pas encore Point Paris. C'est le premier Point Berlin. C'est la première métropole à se doter de son extension personnalisée. Waouh, un plus.
A place to be.
Un pas de plus dans les logiques d'entreprise des métropoles. Donc c'est la société Dot Berlin qui s'occupe de cette nouvelle extension. Et donc, entreprises, organisations et habitants de Berlin peuvent donc enregistrer leur nom de domaine sous cette nouvelle extension, moyennant bien évidemment finance, et en gros c'est une cinquantaine d'euros par an. Donc ça veut dire que ça va à la mairie de Berlin, qui se fait du fric sur le dos. Donc la ville, bien évidemment, comme marque, on le voit toujours et toujours de plus en plus, d'énormes logiques financières pour vendre du bien-être. Donc, parce que je cite le maire de Berlin, le nom de domaine .berlin offre la possibilité de mettre en valeur cette ville comme cadre de vie ou comme siège d'une activité entrepreneuriale. Et donc il y a un certain nombre d'institutions qui ont déjà leur site avec le nom de domaine, donc des grosses institutions comme l'hôtel Adlon, les galeries Lafayette, l'hôpital universitaire de la Charité et des groupes comme Yahoo, Porsche, vous voyez. Et ben, côté français, effectivement, la ville de Paris aura aussi sa propre extension. Et l'ouverture générale est prévue pour la fin de l'année 2014 et on attend également l'apparition de .london.roma.nyc New York City, voilà, et bientôt aussi Only Lyon. Annonce ça, ça existe déjà comme marque, alors on n'attend plus que le nom de domaine.
Pour se faire une idée, 50 euros, c'est à peu près le prix d'un nom de domaine en .com, qui est le plus cher des noms de domaine. Et un nom de domaine normal, ça aussi entre 15 et 30 euros par an.
Eh ben, on a fini ce Canu Info.
Ah oui, on dirait qu'on a fini ce Canu Info.
Parce qu'on n'a pas de météo pour vous dire qu'il va faire froid bientôt.
Sans agenda et sans météo.
Ouais, mais on vous laisse avec l'agenda d'Idées Noires, l'émission des confédérations, des groupes anarchistes qui va nous succéder.
Et qui devrait commencer dans 4 minutes. Et ben, en attendant ces 4 minutes, on vous laisse avec un petit peu de musique.
À
ciao,
mercredi.
Merci de nous avoir écoutés.